franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, une expérience grandeur nature qui va démarrer dans un laboratoire de Barcelone afin de préparer les futurs voyages spatiaux vers Mars.
Depuis la nuit des temps, l'être humain rêvait de voyager dans l'espace. L'invention de la fusée fit de ce rêve une réalité. Mais avant que l'être humain accomplisse courageusement ce premier pas de géant, des êtres courageux embarquèrent dans la fusée.
Et ces êtres courageux, ce seront donc des rats, les cobayes de ce projet Mélissa. La semaine prochaine, un équipage de rats va être mis à l'épreuve au sein de l'Université Autonome de Barcelone. Donc ils ne seront pas tout à fait dans une fusée. Christophe Lasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous et vous êtes le chef du projet Mélissa pour l'Agence Spatiale Européenne. Et puis avec nous en plateau, notre spécialiste de l'espace, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Christophe Lasseur, que va-t-il se passer exactement à Barcelone la semaine prochaine pour nos rats?
Alors, la semaine prochaine, ce sera la première étape de l'intégration de notre écosystème artificiel qui s'appelle Mélissa. L'idée étant de recréer un écosystème qui nous permette de recycler tous les déchets de la mission de façon à produire de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Alors évidemment, aujourd'hui, étant donné notre niveau de connaissance et étant donné aussi les coûts, on commence d'abord par des étapes avec un équipage de rats qui aura juste comme fonction de consommer l'oxygène et de produire du CO2.
Donc petit équipage, je crois, pour commencer.
Alors petit équipage, un petit équipage de 4... Quatre individus, tous volontaires, et sur lesquels on compte beaucoup pour démontrer notre efficacité.
Et ensuite, donc, vous allez amplifier la cohorte, c'est ça?
Voilà, alors, l'idée sur le site de Barcelone, c'est de faire une démonstration à l'échelle d'un humain. Et là, pour pouvoir simuler la même taille, on sera sur 40 rats.
Mmh. Alors, le projet Mélissa, donc, ça fait déjà plusieurs années, hein, je crois, qu'il a commencé. L'objectif, donc, c'est ça, c'est de préparer vraiment des missions très très longues dans l'espace.
Alors, l'objectif de Mélissa, effectivement, c'est d'acquérir de la connaissance pour préparer les missions futures, que ce soit au niveau du recyclage, de la production d'oxygène, nourriture, et bien sûr d'eau, et aussi tout ce qui est sécurité, en sécurité chimique, microbiologique, voilà.
Philippe Hénarejos, on a toujours utilisé les animaux hein, avant d'envoyer les hommes dans l'espace.
Hein. Oui, ils ont payé un lourd tribut. Ils ont été les premiers à aller explorer l'espace. Ouais. Ça continue. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a un problème quand on envoie des hommes dans l'espace, c'est que l'espace est le milieu le plus hostile qui existe. Il n'y a pas pire. Donc, il faut tout transporter. Il faut recréer un écosystème. Un vaisseau, finalement, c'est une mini planète Terre, presque. Sauf à la différence près qu'il ne permet pas aux hommes qui sont dedans de vivre comme ça, dans un milieu fermé, comme nous le faisons tous sur cette Terre. Et donc, l'expérience Mélissa, qui dure déjà depuis plus de 10 ans, je crois, explore ça pour permettre justement d'abord d'emporter moins de poids, parce que quand on va dans l'espace, on lance les vaisseaux avec des fusées, on n'a pas trouvé mieux, donc ça a un coût énorme. Et donc si on peut s'éviter, pour une mission longue par exemple, d'emporter de l'eau en quantité suffisante pour boire et se laver, etc., il faut recycler tous les fluides qu'on emporte. Et c'est à ça que ça sert. Ça sert à améliorer ce rendement, si vous voulez. On n'en est pas encore à faire une deuxième biosphère comme la Terre.
Justement, Christophe Lasseur, comment vous allez faire dans ce laboratoire de Barcelone pour recréer donc les conditions d'un voyage long pour le problème de l'eau, par exemple, qui est crucial pour des êtres humains?
Alors, Mélissa est basée sur un écosystème terrestre. En fin de compte, c'est un lac qu'on a plus ou moins coupé en tranches, si je puis dire, de façon à ce que les ingénieurs puissent le comprendre et le caractériser. Et ensuite, on assemble ces morceaux du lac, si vous voulez, de façon à avoir un écosystème global. Et tout le challenge du site de Barcelone, c'est de réussir, grâce à des lois mathématiques, grâce à la connaissance qu'on a acquis, à contrôler ces procédés pour pouvoir maintenir notre équipage en vie.
Et alors pour l'eau, comment vous allez faire par exemple?
Alors pour l'eau, il y a deux façons de faire pour l'eau. Soit une filtration, ce qu'on a déjà démontré sur le site de Concordia, hein, depuis déjà maintenant 7 ans, le site de Concordia au pôle sud utilise notre technologie de recyclage d'eau. Soit utiliser aussi la transpiration des plantes. Parce qu'en fin de compte, le producteur de Mélissa, c'est des algues et des plantes. Et les algues et les plantes, par photosynthèse, transpirent, produisent de la nourriture et de l'oxygène.
Alors la difficulté justement, c'est la nourriture. Hein. Donc là, ce sont des procédés particuliers avec des plantes, des algues qui sont mis en place.
Voilà. Alors dans Mélissa, il y a deux compartiments producteurs. Le compartiment micro-algue, hein, qui est colonisé par des spirulines, qui est un micro-organisme relativement bien connu maintenant. Et puis, des serres, pour simplifier, où là, on va retrouver des espèces végétales classiques, hein, du blé, de la tomate, du soja, de la pomme de terre, et ainsi de suite. Oui.
Et vous visez quelle autonomie, exactement?
Alors, on vise au minimum pour les premières missions, et quand je parle de premières missions, c'est les premières démonstrations au sol, on vise 20% sur la nourriture. Sachant qu'à partir de 40% de recyclage sur la nourriture, on boucle aussi les boucles oxygène et les boucles eau. Donc le challenge final, c'est vraiment la nourriture.
Alors Philippe, c'est pas le seul projet de ce type, hein. Il y en a eu d'autres, et pas mal d'échecs d'ailleurs dans ce domaine, hein. C'est compliqué à mettre en place.
Alors il y avait eu un projet il y a quelques années, qui avait commencé en 87 et qui avait été opérationnel en 91, ça s'appelait Biosphère 2. C'était la première tentative, en tout cas médiatisée, de recréer un écosystème totalement fermé, totalement autonome. Mm-hmm. Ça se passait en Arizona et il y avait un équipage qui s'était enfermé pour plusieurs mois. Et on s'était aperçu à l'époque, dans cette première expérience, que ben, ça marchait pas fort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'atmosphère commençait à devenir de plus en plus irrespirable. Il y avait des plantes, il y avait un lac, il y avait des animaux, il y avait des insectes. Oui. Et il y avait un déséquilibre qui s'était créé assez rapidement, de sorte qu'il avait fallu réinjecter de l'oxygène artificiellement, donc ceux qui avaient un peu non validé l'expérience, mais ça avait démontré une chose, une première chose dont je crois Mélissa tient compte, parce que c'est une expérience qui dure depuis des années, c'est que l'écosystème terrestre est extrêmement complexe, il y a énormément de paramètres. On parle souvent de climatologie où il y a beaucoup de paramètres mathématiques à entrer en compte pour essayer de comprendre ce qui se passe avec le climat. Pour l'écosystème, à mon avis, c'est exactement la même chose, on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe, et j'espère que, en tout cas, au moins Mélissa, s'il ne prépare pas les voyages sur Mars, parce que vous savez très bien ce que j'en pense, je crois qu'il n'y a pas de financement.
Vous êtes plus que sceptique.
Je suis sceptique sur la réalisation, parce que ça demande énormément de milliards de dollars ou d'euros et qu'ils ne sont pas engagés. Donc, même si ça ne prépare pas un voyage sur Mars, j'espère au moins que ça permet de mieux comprendre notre écosystème. Le seul qui marche à fond, qui marche bien et qui est la Terre, c'est notre vaisseau spatial et il faut en prendre soin.
Christophe Lasseur, vous prévoyez des victimes collatérales, j'imagine, chez les rats, par rapport à cette complexité que vient d'écrire Philippe Hénarejos?
Ah, pas du tout.
Ah
pas
non,
du tout.
Vous allez non, les maintenir en vie coûte que coûte.
Nous avons toutes les mesures de sécurité autour de la photosynthèse, si je puis dire, pour pouvoir avoir les méthodes de secours pour que nos rats restent en vie. Donc non, on est vraiment sur des normes spatiales au niveau sécurité. Donc on ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque.
Bon, ben on fera le bilan avec vous alors dans quelques semaines, vous êtes d'accord?
Avec plaisir.
Allez, 4 rats pour commencer donc le 13 mai, puis ensuite la quarantaine qui arrive, et pour recréer donc les conditions d'un voyage long dans l'espace. Merci Christophe Lasseur et Philippe Hénarejos d'être venus nous en parler aujourd'hui à la une de la science. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'autotest du sida arrive en France. On en a parlé la semaine dernière, commercialisé au Royaume-Uni. Et bien ce dispositif qui teste la séropositivité en 15 minutes va être mis en vente dans les pharmacies à partir de juin prochain donc dans notre pays. S'il ne s'agit pas d'un diagnostic complet mais d'une simple détection des anticorps produits lors de l'infection au VIH, les spécialistes saluent néanmoins l'arrivée d'une arme de plus dans la lutte contre la propagation du virus. Les chats aussi sont mélomanes. Tiens, pour nous introduire à notre dossier, des chercheurs portugais ont fait écouter plusieurs genre de musique à des chats sous anesthésie générale. Et selon l'étude publiée dans le journal de médecine et de chirurgie féline, ils seraient plus calmes lors de la diffusion de musique classique. Les vétérinaires espèrent ainsi pouvoir limiter la quantité de produits anesthésiants utilisés lors d'opérations et donc limiter leurs effets secondaires sur l'animal. Mais si écouter de la musique détend encore, faut-il pouvoir se l'enlever de la tête? Des chercheurs de l'université de Reading en Angleterre ont testé la capacité de plus de 100 personnes à avoir une chanson dans la tête sans parvenir à s'en défaire. Et il s'avère que la mastication d'un chewing-gum aiderait fortement à oublier les mélodies qui vous trottent dans l'esprit. La gomme à mâcher a déjà prouvé ses effets sur nos capacités cognitives, notamment sur la mémoire et l'afflux sanguin au cerveau.